bienvenue dans la chronique de Del Berliou, journaliste responsable. Avec nos invités, on parlera voyage et outdoor. On va s'évader ensemble.
Bonjour à tous, je suis Delphine et bienvenue dans les chroniques de Del Berliou. Nous nous retrouvons chaque troisième jeudi du mois, donc pour parler sport nature et voyage. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon invité, Béranger Boulevert. Bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, nous allons parler sport nature, outdoor et plus particulièrement aborder ensemble la question des sports de nature en indoor, en intérieur. Donc ça semble être une tendance de plus en plus présente et prégnante. Donc nous allons voir ça ensemble. Donc comme son nom l'indique, les sports nature, sports de pleine nature ou sports outdoor sont des activités physiques pratiquées dans le milieu naturel. Donc nous sommes dans un département, les Alpes-Maritimes, où on peut pratiquer toutes les activités sportives, ski, parapente, spéléo, randonnée, etc. Et donc je souhaite avec vous aborder ce thème de l'outdoor en indoor avec des regards croisés. Donc le regard d'un éducateur sportif canyon et escalade, Béranger, donc qui encadre des publics, qui nous parlera voilà très vite tout à l'heure là de ce qu'il fait plus exactement. Le regard d'une structure indoor. Donc nous aurons au téléphone tout à l'heure Kevin Fievé, le directeur du Vesubia Mountain Park. Et aussi le regard d'un territoire, donc au travers du parc national du Mercantour, avec aussi son directeur Christophe Viré, tout à l'heure au téléphone. Mais dès à présent, on va voir avec Béranger, donc son regard de l'indoor dans l'outdoor. Donc bonjour Béranger.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais?
Donc je suis éducateur sportif en escalade et canyon. Donc j'encadre le canyon principalement donc sur la saison d'été, sur un petit peu l'avant et l'après-saison d'été, avec des groupes, des collectivités, des particuliers. Donc sur tous les canyons du 06 et même sur le pourtour un petit peu plus loin. J'encadre également en escalade, en extérieur et en intérieur, donc avec les clubs d'escalade, les cours enfants, adultes, dans les différentes salles qu'on peut trouver ici sur la côte. Je suis également formateur en fait au sein du Krebs PACA pour la formation des futurs moniteurs, donc escalade et canyon.
Ok, donc l'avenir du métier.
L'avenir du métier.
Ça fait combien de temps en fait que tu es éducateur sportif et formateur?
Et ça doit faire 11 ans je crois.
Ok, donc tu as une bonne vision du métier.
Voilà, ça fait un moment que je travaille ici. Je suis niçois à la base et donc je connais bien le coin et j'ai toujours exercé ici.
Donc, est-ce que c'est vrai qu'on a les plus beaux canyons de France dans les Alpes-Maritimes?
Alors, moi j'ai envie de dire oui, parce que déjà j'aime trop ma région pour dire qu'il y a mieux ailleurs. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'on est la région avec le plus de canyons, le département avec le plus de canyons. Et donc forcément, on a beaucoup de très beaux canyons. Voilà. Après, dire le plus beau, ça dépend un petit peu de ce que chacun y préfère. Mais en tout cas, on a beaucoup de canyons verticaux, beaucoup de canyons aquatiques et on est bien fournis.
D'accord, des canyons plutôt engagés ou on a un beau panel
On a de tout, même des canyons engagés de montagne, comme dans le Raton, comme dans Amen, et puis comme dans d'autres canyons qui sont beaucoup moins connus comme des canyons de montagne. Et après, on a des canyons très ludiques comme à Bray-sur-Royal, à Maglia, comme la Bolène dans la vallée de la Vésubie, comme une grosse quantité de canyons.
Ok, très bien. Et donc le métier de guide au quotidien, concrètement ça consiste en quoi? De guide, pardon, d'éducateur sportif.
Alors, sur le... Oui, c'est tellement varié comme activité. Si on recible sur le canyon, c'est d'abord un accueil du public pour pouvoir faire une activité. Un canyon, ce qui est sympa encadré en canyon, c'est qu'on a les gens du début à la fin. Il y a un itinéraire, il y a un départ, une sortie et on est ensemble. Et donc, on va franchir des obstacles ensemble. On va marcher dans la rivière, faire des sauts, des toboggans, tout ça. Mais au travers cette activité qui est ludique, il y a aussi tout un partage de la nature, de sa vision de pratiquer. Et voilà, on fait pas simplement suivre des gens derrière dans un itinéraire étroit. Non, il y a vraiment tout un partage, toute une éducation sur la nature et sur le sport.
D'accord, c'est pas juste ludique du coup,
c'est je considère qu'un bon éducateur, il fait pas juste une activité ludique, voilà.
D'accord, très bien. Et du coup, je me demandais, donc c'est quand même un travail, c'est un métier qui est assez saisonnier, non ? Les canyons ne sont pas dans le département ouvert toute
effectivement,
l'année ?
Effectivement, sur le canyon, on a une période d'autorisation légale qui est du 1er avril au 31 octobre. Et sachant que ça, c'est vraiment la période de pratique. Et après, la période touristique, elle est plutôt sur juillet, août. Donc ça, c'est vraiment sur une partie de l'année. C'est très saisonnier, le canyon. On est quand même le département où cette restriction, on est peut-être le seul département à avoir une restriction comme ça.
Et pourquoi on a cette restriction par rapport à d'autres
territoires ? Alors, cette restriction, elle est faite pour préserver la nature, pour laisser un petit peu l'écosystème se restructurer, parce que c'est vrai que même si on aime bien la nature, on la piétine quand même en la pratiquant. De toute manière, la nature, il y a un impact. Il y a pas rien. Donc, ça permet aussi de restructurer. Puis, c'est aussi un partage du milieu naturel avec les pêcheurs et les chasseurs.
D'accord, très bien. Et du coup, donc le reste du temps, donc là, il y a le canyon. Tu nous disais
octobre, pour le canyon, c'est terminé. Et donc maintenant, il y a toute la partie sur l'année scolaire, donc le travail avec les clubs d'escalade. Donc vraiment sur la saison scolaire, avec les cours les soirs, les sorties falaises les week-ends, avec les différents groupes. Et ça occupe pas mal de temps. Et en plus de ça, donc il y a aussi des clients particuliers, des étrangers, des locaux qui veulent faire des Via Ferrata aussi, parce qu'on encadre aussi en Via Ferrata, qui veulent faire des journées de perfectionnement en escalade, de la découverte, de la sortie famille escalade. Et moi, je finis après de combler mon temps avec donc la formation sur le centre de formation du Krebs PACA.
D'accord. Et du coup, au niveau des demandes, des clientèles, en fait, toi, tu es au plus proche, tu es en contact direct avec les clients, donc soit en canyon ou en escalade. Et comment tu vois, est-ce qu'il y a une évolution là depuis ces 10 dernières années ? Donc ça fait 10 ans que tu pratiques ce métier.
Oui.
Est-ce que tu vois une évolution dans leurs demandes, dans leur comportement ?
Oui, il y a quand même un gros changement de la clientèle, je dirais. Les gens aiment bien tout ce qui est ludique. J'ai l'impression qu'il y a eu une période où les gens aimaient de moins en moins tout ce qui était apprentissage, tout ce qui était pédagogique. Les gens, ils voulaient juste du fun dans les activités. Mais pas très peu axé sur l'apprentissage, sur la quête de l'autonomie. On paye une prestation pour s'amuser. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on retourne un petit peu dans une démarche où les gens, ils ont envie d'avoir autre chose que simplement du fun. Ils ont envie d'avoir un contact avec la personne qui va les encadrer, d'avoir une évolution. C'est une fidélisation pour nous du client, parce que aujourd'hui le client demande plusieurs canyons. Il aime bien une progression dans son activité.
Avec le même guide, du coup ?
Avec le même guide, si ça se passe bien, oui.
D'accord. S'il n'y a pas de perte.
Voilà.
C'est bien. Et du coup, donc, par rapport à l'escalade, donc il y a le canyon et l'escalade. Donc toi, tout au long de l'année, tu encadres des groupes, tu as aussi donc, des individuels. Et comment ça se passe ? Vous êtes plutôt en falaise, parfois en salle ?
Alors, quand c'est des individuels, en général, les gens, ils demandent plus à faire une sortie en falaise. Les salles sont souvent à accès payant, mais par contre, libre d'accès, et on peut y aller et grimper une fois qu'on s'est acquitté de l'entrée. Donc, ils ont pas forcément besoin, en fait, d'avoir un encadrant si c'est des gens qui pratiquent déjà et que c'est juste pour aller s'entraîner ou grimper entre amis. Par contre, sur de l'activité en extérieur, il y a des gens qui demandent pour avoir un perfectionnement, c'est-à-dire pourquoi pas apprendre les manipulations de grandes voies, les manipulations de cordes qui permet d'enchaîner plusieurs longueurs en grande paroi. Puis après, il y a aussi, on a aussi un public qui est un petit peu famille maintenant, qui demande une activité en famille, donc avec les parents, les enfants, des amis, ils constituent des petits groupes de 4 à 8, 10 personnes. Et ces gens-là, ils veulent, sur une activité de week-end, faire une sortie groupée, donc avec apprentissage, et que ce soit adapté aussi bien aux enfants qu'aux adultes qui sont là en même temps.
D'accord. Donc ça, tu dis depuis maintenant, donc c'est une tendance qui est assez récente, en fait.
Oui, moi en tout cas, c'est une demande que j'ai plutôt depuis ces 3 dernières années.
D'accord.
Voilà, après c'est les demandes qu'on a, elles sont aussi en rapport avec la communication qu'on fait dessus. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis dit, je vais communiquer dessus, et qu'aujourd'hui ça se développe un petit peu.
D'accord.
Par contre, il y a aussi une grosse baisse sur la fréquentation de Via Ferrata, par exemple.
Ok. Parce que c'est justement peut-être quelque chose qui se fait plus en individuel, c'est ça ou...
Non, même les Via Ferrata, les Andes, quand on parle avec les gestionnaires de Via Ferrata, ils ont de moins en moins de monde sur les parcours, même en individuel, sans être encadré. Parce que c'est vrai que même si dans le département, on en a, je crois, une dizaine, l'arrivée des parcs en hauteur, des PH, les gens vont plus facilement faire ce qu'on appelle un accrobranche, hein, c'est le nom plus commun. Voilà, les gens vont plus facilement faire un accrobranche qu'une Via Ferrata qui demande un petit peu plus d'effort, souvent de faire un petit peu de marche pour aller jusqu'au parcours. Voilà, tout ça qui fait. Voilà, sur les Via Ferrata, ça, on sent bien qu'il y a une population de gens qui voulaient juste du fun, du ludique, qui faisaient des Via Ferrata, mais depuis qu'il y a les parcours accrobranche, ils vont un parcours accrobranche.
D'accord. Ok, je te remercie Béranger, on fait une toute petite coupure musicale, donc avec Daki Daya, Georges, et on te reprend juste après.
Merci.
Yeah. Merci, man. Continue. Yes. Un petit big up à Georges Brassens. Original Daki Daya Roots Reggae. Yes, I. Hey, rock reggae. Oh, ça va les gars? Tout le monde va bien? Yes. Oh. Moi, Georges, j'ai toujours voulu chanter du bon son du Roots Reggae. J'ai toujours voulu chanter du bon son du roots reggae. Autant de bons papas, le reggae ne passait pas. Il fallait dissimuler le message de bon papa. Dans les coulisses de l'Olympia, ça sentait bon la marijuana. Et moi je caressais les pieds de Jacques. J'ai toujours voulu chanter mon son de reggae. Moi, George, j'ai toujours voulu chanter mon son de reggae. La canne, la Jeanne, imaginez-vous mesdames, je les cultive chaque matin avec amour dans mon jardin. Me donne le rhum, la Jeanne me donne de l'âme. Oh, imaginez-vous, mesdames. Moi, George, j'ai toujours voulu chanter du bon son de roots reggae. Moi, George, j'ai toujours voulu chanter du bon son de roots reggae. Se dissimule, elle dissimule ma dévotion. C'est comme ça je suis reggae. Le Almighty m'a causé. Déjà tout dit, j'étais bien arrivé. Moi, George, j'ai toujours voulu chanter en fond de roots reggae. Moi, George, j'ai toujours voulu chanter en fond de roots reggae. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. La musique qui marche au bar, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme sur la grosse pomme. Yeah. Moi, George, j'ai toujours voulu chanter du bon son de roots. J'ai toujours voulu chanter du bon son du roots reggae, roots reggae, roots reggae. Avec tous les seins, avec tous les seins. George, j'ai toujours voulu chanter du bon son du roots reggae. Du bon son du roots reggae. Reggae.
Bonjour à tous, de nouveau sur les chroniques de Delbert Liu. Donc nous sommes en compagnie de Béranger Boulevert, éducateur sportif canyon et escalade. Donc tout à l'heure on a vu un petit peu en quoi voilà le métier d'éducateur sportif. Maintenant j'aimerais que tu nous parles un petit peu Béranger de au niveau escalade notamment la complémentarité ou pas d'ailleurs entre la pratique extérieure outdoor et la pratique intérieure au niveau de l'escalade. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Comment toi tu vois ça par rapport à ton métier ?
Alors, ben, moi déjà par rapport à mon métier, c'est sûr que le travail en indoor, ben, c'est une aubaine. Parce que c'est vrai que quand on travaille sur une activité de loisir, ben, on travaille sur le temps de loisir. Et le temps de loisir, les gens ils travaillent la journée, en semaine, et ils sont disponibles que le soir. Et le soir, de faire une activité outdoor telle que l'escalade, c'est pas hyper possible. Donc d'avoir des salles d'escalade, ça permet déjà pour nous, ça permet de travailler, ça permet de faire des cours adultes, des cours enfants, des groupes de niveau, et de faire évoluer donc sur toute une gestuelle, et de faire évoluer aussi sur les techniques de cordes et d'assurage. Pour après, derrière, rendre les gens autonomes et pouvoir faire des sorties en falaise, d'abord encadrées, puis après vraiment en autonomie. Donc pour nous, l'escalade en indoor, c'est vraiment bien. L'escalade en indoor, en fait, elle est arrivée à but d'entraînement à la base. Les premiers à s'entraîner sur de l'escalade indoor, c'était je crois les Italiens, les alpinistes italiens qui étaient pendant la guerre en même temps dans les troupes armées et qui s'entraînaient sur des murs de gymnase, et puis après il y a eu toute une évolution avec la construction des prises d'escalade amovibles avec des vis qu'on mettait sur des murs et qui s'est développé, et aujourd'hui donc voilà on a beaucoup de murs d'escalade, beaucoup de structures qui sont pas toutes ouvertes au public. On a beaucoup de structures qui sont dans des gymnases de collège. L'escalade est devenue un des sports les plus pratiqués au collège. Donc ça veut dire que vraiment il y a l'escalade se développe aujourd'hui par l'indoor parce que c'est facile d'accès.
Mais du coup au final pour l'escalade, l'indoor permet d'amener des gens in fine vers l'outdoor.
Alors l'escalade indoor permet d'amener des gens vers l'outdoor, et l'escalade indoor permet des gens à faire que de l'indoor.
Mmh, d'accord.
Voilà, il n'y a pas forcément cette suite qui amène vers l'extérieur, parce que il y a beaucoup de gens qui pratiquent maintenant, qui commencent l'escalade par de l'indoor et qui restent sur de l'indoor parce que c'est simplement ce qu'ils recherchent. Ils cherchaient juste une activité du soir pour faire un petit peu d'exercice physique, quelque chose de ludique, d'amusant, qui est pas très contraignant et qui est vraiment très sympa. Mais qui cherchent pas après, qui ont pas cette logique de vouloir aller en extérieur derrière. Contrairement à l'époque où justement ça s'est développé l'escalade en indoor, qui était juste un but entraînement sur la gestuelle et le physique pour pouvoir être plus performant en extérieur. Aujourd'hui, on a aussi cette catégorie de gens qui vont en salle d'escalade parce que ils aiment grimper, mais ils travaillent, donc ils vont s'entraîner en salle d'escalade de manière toujours très ludique pour pouvoir être plus performant après quand ils sortent en extérieur.
D'accord, donc on voit au final deux catégories de personnes qui sont soit en entraînement pour l'outdoor, soit qui désirent pratiquer en indoor. Donc pour l'escalade, mais est-ce que ça peut être pareil sur d'autres activités physiques et sportives comme le canyon par exemple ? Est-ce que...
Alors le canyon indoor, ben justement nous ce qui vient de se passer, c'est donc avec l'ouverture de du nouveau complexe à Saint-Martin-Vésubie, Vésubia Mountain Park, ils se sont dit comme premier canyon indoor de France, parce que donc voilà c'est un canyon artificiel à l'intérieur même d'un bâtiment et donc aujourd'hui on peut dire voilà c'est le premier canyon indoor. Voilà, moi j'aime pas beaucoup cette appellation. Je suis allé voir à quoi ça ressemblait, et voilà, on a trois vasques sur lesquelles il va y avoir des sauts, un petit rappel, des toboggans, mais pour moi j'aime pas parler de canyon indoor. C'est trois vasques, c'est un aquasplash avec des toboggans qui sont différents sur du copyrock.
D'accord. On reparlera de tout ça, Béranger, tout à l'heure, parce qu'on va avoir au téléphone plus tard, après les informations, Kevin Fievé, le directeur justement de ce Vésubia Mountain Park. Mais en attendant, on doit lancer les informations. Donc, à plus tard, les informations.
Vous écoutez Agora Côte d'Azur. Les informations régionales.
Vous toujours sur les chroniques de Delbert Liu. Merci d'être toujours avec nous. Donc cette année, vous le savez peut-être pas, en Vendée, il y a eu l'ouverture d'un surf park. On retrouve donc une vague artificielle pour les surfeurs. Et depuis cet automne, un canyon artificiel dans les Alpes-Maritimes, donc le département où on a le plus grand nombre de canyons, donc Béranger nous disait tout à l'heure. Certains y voient la réponse à une demande de certains clients. Donc une tendance à la sécurisation. Certains y voient une perdition de l'essence même des activités outdoor pratiquées dans le milieu naturel. Et d'autres y voient une opportunité économique pour les territoires. Donc différentes visions. Voilà. Donc dans notre département, le Vesubia Mountain Park a ouvert ce 29 octobre sur la toile de nombreuses réactions. Donc des réactions de surprise, à quand la prochaine grande voie indoor ou quand est-ce qu'on chauffera la mer pour l'hiver. Certaines autres personnes y voient par contre l'opportunité de diversifier les activités hivernales, donc avec, on le sait, une dégression de la neige, peut-être moins vraie cette année. D'autres réalisent qu'eux-mêmes pratiquent aussi des sports indoor le soir, par exemple quand ils vont s'entraîner à la salle pour après grimper en falaise le week-end. Et d'autres y voient la possibilité de pratiquer des activités de manière sécurisée, aseptisée. Donc des activités qu'ils n'auraient peut-être pas l'occasion de pratiquer le reste du temps. Donc c'est en effet un projet qui ne laisse personne indifférent, un projet qui surprend par son envergure et qui questionne par son ambition. Donc c'est pourquoi on a souhaité laisser la parole donc au directeur du site, Kevin Fievé, pour mieux comprendre son contexte, les objectifs et le projet en lui-même. Donc tout de suite, on laisse la parole à Kevin Fievé. Bonjour Kevin, vous nous entendez ?
Oui, tout à fait.
Voilà, très bien. Merci de nous rejoindre donc par téléphone. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus donc de ce projet dont tout le monde parle ?
Bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà dans le Vesubia Mountain Park, il y a trois grands espaces. Un espace plutôt aquatique, donc une piscine, un bassin ludique, un espace forme avec sauna et une salle de cardio-musculation. Ça, c'est pour le premier grand espace qui est plutôt traditionnel. Enfin, c'est ce qu'on connaît un peu dans toutes les villes. Un espace un peu plus innovant qui est l'espace grimpe avec 4 activités à l'intérieur. Il y a 70 voies de 13 mètres de haut, donc des voies artificielles. Il y a 35 mètres linéaires de blocs, donc d'escalade sans cordes. Il y a un parcours acrobatique en hauteur, donc un acrobranche version indoor. Et la partie innovante de cet espace-là, c'est la grimpe ludique. Donc une quinzaine d'ateliers très colorés, avec plusieurs défis, avec un assurage automatique, donc qui ne nécessite pas de savoir s'encorder, et qui permet d'aborder l'escalade de manière très ludique pour les enfants et aussi pour les adultes. Et puis le troisième grand espace le plus innovant, c'est la partie canyon et spéléo indoor, donc artificiel aussi, avec un parcours qui dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie en canyon, donc avec de l'eau stabilisée à 20 degrés, de l'eau de piscine, avec un décor qui ressemble étrangement à de la pierre, un peu comme en milieu naturel, et de la spéléo du coup en sous-sol avec un parcours de 80 mètres linéaires de boyaux difformes, de grottes, de siphons, etc. Qui ont été recréés pour recréer l'ambiance de la spéléo.
Très bien. Et du coup, pourquoi ce projet en fait ? Pourquoi ce projet Canyon et spéléo notamment sur le territoire des Alpes-Maritimes ? Quel est le contexte de ce projet ?
Alors ce projet s'inscrit dans un contexte effectivement d'une nature pourtant bien pourvue sur ces plans-là. La volonté était de rendre ces activités-là un petit peu plus accessibles. Si on regarde en proportion dans la population nationale, ce sont des activités dites de niche, donc un manque d'accessibilité technique, tarifaire. Voilà, ça s'adresse d'abord à des gens qui ont pas forcément l'occasion d'en faire en milieu naturel pour toutes ces raisons-là, et pour leur donner envie en fait de s'initier dans des conditions un petit peu sécurisées, édulcorées, où on prend que le plaisir et pas forcément la marque d'approche, le fait que l'eau soit froide, etc. On leur donne l'occasion d'essayer dans des conditions qu'on pourrait qualifier d'idéales en termes de sécurité et de confort. Et après, notre idée, nous, à l'intérieur, UCPA, exploitant de ce site-là, c'est de susciter des vocations, de leur donner envie de progresser, de les accompagner vers un tout petit peu d'autonomie et leur donner voilà, envie de prendre une course avec un guide, par exemple, et d'aller explorer la nature environnante et pas forcément de les limiter au milieu artificiel.
D'accord. Donc c'est pour un public de non-initiés qui, au final, souhaiterait essayer en ne prenant pas de vrais risques, au sens voilà, comme dans la nature. Et après, vous souhaitez les rediriger vers des guides ou des éducateurs sportifs en canyon, c'est ça ?
Exactement. Évidemment, dans le milieu des guides, ça a fait beaucoup parler et ça a généré beaucoup d'inquiétudes, ce qu'on peut comprendre. Aujourd'hui, quelques semaines après l'ouverture, on peut déjà dire que les relations sont devenues très bonnes parce qu'on leur a proposé de d'installer le bureau des guides du Mercantour dans le pôle même pour les encourager à profiter des gens qui avaient essayé, d'assurer une continuité, un trait d'union entre l'indoor et l'outdoor. C'est dire à quel point cette envie de développer l'outdoor aussi nous tient à cœur. Et puis je voudrais dire aussi que c'est pas uniquement dédié aux gens qui n'en ont jamais fait et qui signent ici. On peut très bien imaginer des formations brevet d'état canyon sur ce site-là, alors que les conditions en extérieur ne s'y prêtent pas, parce que comme toutes les activités outdoor, les conditions sont pas toujours bonnes. L'avantage du Vésubia Mountain Park, c'est qu'elles sont par définition toujours bonnes, on peut toujours l'ouvrir quand on veut. Donc ça, c'est une deuxième catégorie qu'on vise et qu'on espère attirer. Et puis après, il y a les entreprises qui ont besoin de multi-activités et qui ont envie de se distraire sur un même site, tout le monde ensemble. Donc c'est aussi un troisième levier. Et puis après, il y a les sportifs locaux qui viennent, je pense, là au mur d'escalade, qui ont besoin d'un équipement de qualité à proximité, en tout cas pendant l'hiver, avec des saisons un peu molles en outdoor, et qui peuvent venir profiter du site et s'entraîner, comme vous l'avez dit, pour progresser en outdoor.
D'accord, très bien. Je rebondis sur quelque chose que vous avez dit juste tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y avait aussi l'aspect financier. Par exemple, tout le monde ne pouvait pas se payer les services d'un éducateur sportif pour aller en canyon outdoor. Mais combien coûte l'entrée au Vésubia Park, Mountain Park, pardon ?
Sur activité spécifique canyon, ça coûte 20 euros l'entrée. Et après, il y a un système de carte de fidélité qui s'appelle le Pass Vésubia qui permet, si vous la prenez, elle est valable un an et elle permet d'accéder à l'ensemble des tarifs réduits du site et ça porte le canyon à 15 euros. Donc vous voyez, c'est plutôt des tarifs pour les gens qui ont l'habitude de pratiquer en outdoor, c'est des tarifs qui sont volontairement très accessibles.
Et du coup, vous parliez aussi des autres usages de ce site au final, la formation. Est-ce que vous prévoyez aussi des classes découvertes pour les enfants ou quels sont vos projets ?
Alors c'est même pas des projets, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a un plan scolaire sur la piscine et sur l'escalade. Donc en semaine, quand nous sommes fermés au public, nous recevons les scolaires de la vallée avec des cycles de 6 à 8 séances de progression sur ces deux espaces-là. Donc c'est déjà le cas. Et puis après, il y a toutes les classes vertes, les classes rouges. Voilà, il y a un gros plan scolaire qui a été développé sur ce site au service des écoliers du territoire.
Très bien. Et dernière question, le site est ouvert toute l'année ?
Le site est ouvert toute l'année, sauf une fermeture technique obligatoire qui se déroulera a priori en janvier, semaine 2-3, pour nous permettre de vidanger la piscine et de faire les entretiens qui nécessitent que le site soit libre.
D'accord, très bien. Je vous remercie et donc à très vite peut-être sur le Vésubia Mountain Park.
Avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Donc juste avant de prendre en ligne le directeur du parc national du Mercantour, j'aimerais bien avoir un peu des réactions de Béranger, voir ce que toi tu penses de tout ça, quoi, au niveau canyon, le regard de l'éducateur sportif.
Alors moi je suis monté voir le parc à l'occasion d'une soirée escalade en fait, qui m'attirait particulièrement. Le canyon indoor m'attire par curiosité mais pas pour son activité. L'escalade indoor, je la pratique pas que car elle permet de m'entraîner et puis c'est quand même ma passion numéro une. Donc voilà, et donc j'ai pu découvrir en fait cet espace canyon. Quand je suis arrivé, je l'ai regardé et visuellement je me suis dit ça en jette, c'est classe, ça en jette. Voilà, il y a trois bassins avec effectivement du copirock, c'est-à-dire en fait c'est des bassins qui sont résinés avec une structure qui ressemble à du rocher. Donc voilà, l'aspect visuel, il est très réussi. Moi, je suis pas complètement d'accord, donc pour réagir sur le fait que voilà, c'est que grâce à ce parc, on propose une activité qui est sécurisée. Parce que j'ai l'impression que du coup, nous, ce qu'on propose en extérieur, on n'est pas une activité sécurisée. Et si je peux rassurer tout le monde, ce qu'on propose, c'est très sécurisé. Par contre, effectivement, l'activité indoor est aseptisée. Voilà. Et là, il y a une grosse différence. Effectivement, on marche sur du carrelage, on se change dans des vestiaires. Tout ça fait que l'activité, elle est complètement aseptisée. On est à 15 mètres de sa voiture, c'est aseptisé. Voilà. Mais sécurisé, une activité encadrée par un moniteur, elle est sécurisée aussi.
Ok, très bien, je te remercie Béranger. On va tout de suite prendre en ligne donc le directeur du parc national du Mercantour, Christophe Viré. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre donc dans les chroniques. Est-ce que donc aujourd'hui on parle de tout ce qui est outdoor en indoor, pardon. Et donc on a eu à l'instant en ligne le directeur du Vesubia Mountain Park.
Oui.
Moi je me demandais en fait on se demande au niveau du territoire du parc national. Donc vous avez une bonne gestion des activités de pleine nature afin qu'elles n'endommagent pas le milieu. Vous veillez à sa préservation. C'est même votre mission principale en tant que parc national. Donc je me demandais un peu votre vision, vous, d'une telle structure sur le territoire en lien avec les actions que vous menez en termes de gestion de la fréquentation. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, je m'excuse par avance parce que je suis actuellement en voiture, mais... J'espère avoir bien compris le sens de la question. Écoutez, le pôle montagne ou appelé Vesubia Mountain Park est clairement un investissement assez structurant pour la Vesubie notamment, mais pour l'ensemble du parc aussi. Et je pense que il faut qu'on puisse aujourd'hui développer une coopération avec ce type d'initiative pour justement un discours sur évidemment la découverte de l'excellence de notre territoire au niveau environnement, etc. D'ailleurs, on a avec eux d'ores et déjà quelques projets pour valoriser les milieux naturels à travers la découverte d'espaces montagne en indoor. Maintenant, on va travailler certainement à la mise en valeur des espèces qu'on peut trouver en site naturel à l'intérieur du pôle montagne, pour vous donner un exemple, par exemple.
D'accord. Donc vous y voyez un potentiel de sensibilisation au final?
Il y a un potentiel de sensibilisation et je pense que le parc national du Mercantour a une mission forte de sensibilisation, d'éducation à la nature, voilà, sur les milieux quelquefois.
Allô, vous nous entendez? On a un petit souci. On a un petit souci technique, vous nous entendez? Ok, donc voilà, nous allons enchaîner. Donc voilà, ce que le directeur du parc national semble nous dire, c'est qu'au final, il y a une complémentarité, une réelle complémentarité entre le Vesubia Park et le parc national en termes de sensibilisation, de formation, et peut-être aussi, donc là moi j'extrapole un petit peu, je me permets cette extrapolation parce qu'on a été coupé, qu'au final, si les pratiquants sportifs sont au sein du Vesubia, ils ne sont pas sur le territoire, et donc ils veillent ainsi à la préservation des milieux, sans avoir à remettre en cause l'équilibre et à réfléchir à des mesures de gestion de la fréquentation. Du coup, je reviens vers toi, Béranger. Donc tout à l'heure, on parlait de tout ce qui était donc le lien en fait, donc Vesubia et les guides. C'est vrai que les réactions au niveau des guides, pardon, je dis toujours guides, excusez-moi, il y a des guides, mais il y a aussi des éducateurs sportifs. Donc les réactions par rapport à cette construction de canyon entre guillemets indoor, elles sont assez mitigées malgré tout.
Oui, effectivement. Oui, parce que déjà, c'est quelque chose de nouveau aussi. Et quand de nature, quand il y a quelque chose de nouveau, on est toujours très réticent. Et je pense qu'en étant français, on est assez, assez craintif de tout ce qui est nouveau. Donc forcément, on se méfie. Il n'y a pas eu que des bonnes réactions. Après, moi, je vais réagir quand même sur le fait que, voilà, là, j'ai un peu annoncé que ce parc, il a créé, en fait, un canyon indoor et une spéléo indoor. En fait, ils ont créé un passage souterrain, des passages souterrains creusés, sculptés, et ils ont créé trois vasques avec du copiroc, de la structure rocher autour. Mais pour moi, ils n'ont pas créé une activité. Ils ont créé un site, des piscines qui ressemblent, pourquoi pas, à ce que l'on peut trouver en extérieur. Mais pour moi, faire un canyon, c'est autre chose. C'est découvrir la nature, faire une marche, quand c'est avec un guide, une relation avec le guide, une approche pédagogique aussi avec un apprentissage sur comment se déplacer dans un canyon. Un canyon, c'est pas simplement juste sauter, faire un toboggan et faire un rappel. Il y a vraiment toute une démarche, en fait, d'apprentissage, de regard de la nature, de marcher dans l'eau ou pas dans l'eau, suivant la configuration, pour justement préserver une nature, pour préserver un écosystème aquatique qui est fragile. On va privilégier de marcher plutôt sur les bords. Il y a des moments où on va essayer de nager, mais de nager à plat pour pas justement marcher dans le fond, pour pas remuer les vasques. Mais tout ça, voilà, c'est un apprentissage. Tout ça, c'est un canyon. Là, dire qu'on a créé un canyon en mettant trois vasques et en laissant les gens sauter, en fait, j'ai l'impression qu'on revient à des piscines de l'époque. Parce que maintenant, dans les piscines, on n'a plus le droit de sauter. Et là, donc, en fait, j'ai l'impression qu'on a créé un espace piscine où on a enfin le droit de sauter. Donc voilà. Moi, je suis très partagé, en fait, sur cette appellation canyon. Et en même temps, je continue à dire, le visuel, il est très réussi. C'est très sympa. Le mur d'escalade, c'est un très beau mur d'escalade. Donc, voilà. Après, maintenant, est-ce que pour les gens, c'est vraiment moins cher de monter à Saint-Martin-Vésubie, payer 20 euros par personne pour faire une activité qui dure 40 minutes, une heure avec les instructions, la mise en place de la combinaison? Un canyon demi-journée, aujourd'hui, les prix moyens, c'est entre 45 et 50 euros pour une activité qui va durer 2 heures. Donc finalement, en tarif horaire, on est sur la même chose. Et sauf qu'on va pas être au milieu d'une piscine avec plusieurs groupes. Donc voilà, le dire que ça va être plus accessible en termes tarifaires, je suis pas, là aussi sur ce point, je suis pas complètement d'accord.
D'accord. Mais du coup, c'est vrai que c'est ce que disait donc Kevin Fievé, le directeur du Vésubia, c'est qu'il y a peut-être eu un moment, une tension aussi entre certains éducateurs sportifs et le site, peut-être par manque de connaissances. J'ai entendu qu'ils proposaient de mettre le bureau des guides au sein de Vésubia. Donc, je sens qu'il va y avoir des potentiels partenariats entre les guides et éducateurs sportifs et le Vésubia. Donc, on peut imaginer que... voilà, trouver une complémentarité. En tout cas, on voit bien que ce sont peut-être pas les mêmes publics, ce sont pas les mêmes personnes. Et ceux qui pratiquent de l'outdoor et des canyons outdoor se contenteront peut-être pas des trois vasques, pour reprendre tes termes. Et peut-être que ceux qui n'ont jamais touché au canyon ont peut-être envie de passer par là pour se sentir sécurisés et aseptisés. Enfin voilà, je reprends aussi ton terme, en tout cas ne pas avoir de marge d'approche, être dans des conditions qui sont facilitées au maximum sans les aléas de la nature. Donc voilà, c'est peut-être deux approches différentes et complémentaires. C'est ça en fait.
Oui, bien sûr. Et le lien donc avec les professionnels, effectivement, donc le bureau des guides de Saint-Martin, je croyais déjà, ou va être installé au sein du Vésubia Mountain Park. Je pense que c'est un petit peu trop de dire que voilà, il va y avoir un lien avec la population qui encadre à l'extérieur, avec les moniteurs, avec l'ensemble des moniteurs de l'extérieur. Là, c'est complètement orienté sur le bureau des guides de Saint-Martin-Vésubie. Donc c'est un petit peu dommage que je vais peut-être en dire trop, mais que sur des fonds public, il y a une gestion de l'UCPA, et que sur cette gestion de l'UCPA, on accorde à une structure privée, comme le bureau des guides, de s'installer à l'intérieur même, et que du coup la liaison se fasse par eux. Il y a beaucoup de moniteurs ici dans le 06 et qui sont prêts à travailler.
Ok, ben en tout cas, je pense que le message est passé. Donc on voit bien, ça questionne, on pourrait en parler en fait pendant des heures, cette question de l'indoor, de l'outdoor, le lien entre les deux. Malheureusement, on va devoir vous quitter, là, dans 2 minutes maximum. Donc cette chronique touche à sa fin. Je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je remercie Béranger Boulevard. Donc c'est quoi le nom de ton collectif ?
De Collectif Canyon, voilà.
Donc de Collectif Canyon, d'avoir été avec nous tout au long de l'émission. D'avoir réagi, d'avoir donné son regard d'éducateur sportif canyon et escalade. Donc je te remercie pour tout ça. N'hésitez pas vous aussi à réagir. Voilà, c'est un sujet qui fait réagir. Alors réagissez, donnez votre avis et vous retrouverez donc toute cette chronique en podcast sur le site d'Agora Côte d'Azur Grasse, ainsi que sur le site de delberliou.fr. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous le 15 décembre à 18h pour la prochaine chronique. Je vous dis à très vite pour une prochaine chronique.
crois pas quand je suis tombé sur toi.
Mon poussin à plume, mon poussin à poil.
Et tu m'envoles plus haut que volent les oiseaux.
Si vous me croyez pas,
demandez au moins non.
Comme je fais le fier, je plane sur le dos. Si vous me croyez pas,
demandez aux pigeons.
Y'en a plein qui m'ont vu.
Je suis sur les statues.
Je suis tombé amoureux comme on tombe par terre.
J'avais juste fait trois pas, je suis tombé sur toi.
Dans mon poussin la plume, mon poussin la poêle.
Et tu m'envoles plus haut que volent les oiseaux.
Si vous me croyez pas, demandez au bout.
C'était les chroniques de Del Berliou, journaliste responsable. Je vous donne rendez-vous tous les troisièmes jeudis du mois entre 18 et 19h sur Agora Côte d'Azur. Avec nos invités, on parlera voyage et outdoor. On va s'évader ensemble. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique.